První žena, která obeplula svět na plachetnici, spisovatelka a předsedkyně francouzské pobočky Světového fondu na ochranu přírody Isabelle Autissier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire en 1991 lors du Block Challenge. Et c'est ce mot challenge qui semble en fait décrire quand même le courant de votre vie, parce que sur terre et sur mer, vous avez fait pas mal d'expériences assez incroyables. Donc ça a été quoi pour vous le plus grand challenge de votre vie ?
Moi, je crois que c'est bien évidemment la mer, et en particulier, vous l'avez dit, ces tours du monde en solitaire qui sont quand même très complexes. Déjà dans la préparation, dans l'invention d'un bateau de course, sa préparation, après dans la course elle-même, donc toute cette histoire qui dure pour un tour du monde qui va durer 3 mois, l'histoire elle-même va durer 3 ans, quoi. Donc oui, c'était aussi peut-être là que personne ne m'attendait, en tout cas au début. Et où il a fallu se faire sa place.
Vous avez risqué votre vie à plusieurs reprises. Votre bateau a été détruit par une vague au sud de l'Australie en 1994. Vous avez attendu les sauveteurs pendant 4 jours. Est-ce que vous avez craint pour votre vie à ce moment-là ?
Évidemment, mais l'esprit humain est incroyablement bien fait. Et au fond, j'avais l'impression que j'avais les deux hémisphères du cerveau qui fonctionnaient en parallèle. Un hémisphère extrêmement précis, concret, qui m'incitait à faire des choses toutes simples, comme si le bateau est plein d'eau et qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien à bord, bah, il faut prendre un seau et vider le bateau, donc ça c'est des évidences. Et en parallèle, une hémisphère du cerveau qui me disait que oui, la situation était très grave, j'étais à plus de 2000 km de la côte, j'avais un bateau qui ne pouvait absolument plus naviguer, qui était donc à moitié plein d'eau, et que la situation était dangereuse. En même temps, je pense que mon expérience de la mer, de la navigation, le choix que j'ai fait de faire ces tours du monde en solitaire m'avait amené à réfléchir beaucoup et à être finalement assez prête dans ma tête à affronter des difficultés de cet ordre.
Donc vous vous attendiez à ce que ça puisse arriver ?
Oui, bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas imaginer d'aller faire un tour du monde à la voile en solitaire sans imaginer qu'on peut se trouver avec des vagues monstrueuses, avec le bateau couché par le vent, avec des chocs avec des icebergs, pourquoi pas. Donc toutes ces choses-là se préparent à l'avance et on essaye de mettre au point, autant que possible, des réponses techniques et des moyens techniques pour pouvoir pallier, si possible, à tout ce qui peut se passer.
Est-ce que ces 4 jours d'attente auraient été moins durs si vous étiez un homme ?
Non, je pense que ça aurait été exactement la même chose.
Donc même la force physique ne joue aucun rôle dans ces moments-là ?
Non. Non, c'est plutôt la détermination mentale, c'est plutôt l'organisation, c'est plutôt la préparation. Et je crois que pour ça, les femmes sont au moins aussi bien armées que les hommes, peut-être même un peu plus d'ailleurs. La force physique, finalement, dans la navigation, elle joue, par exemple, pour les manœuvres. Et en même temps, moi, j'ai toujours réussi à préparer mes bateaux de manière à compenser la force physique qui, évidemment, je le reconnais tout à fait, est moins grande pour les femmes que pour les hommes. Mais honnêtement, je pense que dans ce genre de discipline, où le côté intellectuel et psychologique joue beaucoup, les femmes jouent tout à fait à armes égales avec les hommes.
En tout cas, l'océan Indien, ce n'était pas votre dernière péripétie dramatique. Votre bateau s'est re-renversé en 99 au cours de votre autre course solitaire autour du monde dans l'océan Pacifique. C'est d'ailleurs un de vos adversaires, un skipper italien, qui est venu vous sauver. Et votre attente dans l'océan Pacifique, cette fois-là, a duré pendant 24 heures.
Oui, alors elle était, j'allais dire, moins longue, mais presque plus angoissante, parce que le bateau s'est mis à l'envers. Une vague a renversé complètement le bateau. Il est resté à l'envers. Donc évidemment, là, je ne pouvais plus rien faire du tout. Par contre, ma survie, elle est due au fait que j'avais imaginé que ça pouvait arriver et que bien longtemps avant de partir, 1 an, 2 ans avant, avec mon équipe technique, on avait imaginé des solutions comme par exemple le fait de pouvoir sortir éventuellement, le fait d'avoir le petit radeau de survie qui se gonfle tout seul, accessible, même avec le bateau à l'envers, toutes ces choses-là que j'avais imaginé, que j'étais le seul bateau à avoir imaginé, qui maintenant sont devenues obligatoires sur tous les bateaux qui font ce genre de compétition.
Donc vous étiez la première à...
J'étais la première à avoir vraiment dit, je pense que ça peut arriver. Et si ça m'arrive, je veux des solutions techniques. Je ne veux pas être en train d'improviser dans le bateau à l'envers, ce ne sera pas possible. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça se prépare très longtemps à l'avance, ça se pense très longtemps à l'avance. Et dans la tête, quand on décide d'inventer les solutions, ça veut dire qu'on sait que ça va arriver, donc on est prête psychologiquement au moment où ça arrive.
Est-ce que vous pouvez nous décrire ces 24 heures ? La température de l'eau m'intéresse particulièrement.
Dans l'océan Pacifique, surtout à partir du moment où on est en dessous du 50e sud, on est dans des endroits où il peut y avoir des icebergs, donc on a de l'eau qui est à peu près à 2 degrés. Donc pour ça, on a des combinaisons de survie qui sont comme des espèces de combinaisons de plongée, mais encore plus épaisses, qui vous font un peu ressembler à un cosmonaute en quelque sorte.
C'est une combinaison que vous aviez déjà avant le naufrage
ou... Absolument, que j'emmène toujours, et même aujourd'hui où je navigue plus en course, j'en ai quand même à bord.
À bord ou sur vous ?
Alors, pas sur moi en permanence, heureusement, parce que heureusement, la plupart du temps, on n'est pas dans des situations de survie.
Dans ce cas-là, c'est dramatique parce que vous cherchez votre combinaison au moment de l'accident.
Je sais exactement où elle est, tout est prépositionné dans des endroits accessibles, par exemple près de la porte d'entrée en quelque sorte du bateau, il y a un sac de survie avec des vêtements, de la nourriture, de l'eau, une balise de détresse, une VHF pour pouvoir éventuellement parler avec un navire ou avec un avion, enfin tout ça est très organisé. Donc voilà, il faut imaginer quand le bateau se met à l'envers, la chose la plus bizarre, c'est que vous marchez au plafond, que tous les objets qui n'étaient pas attachés tombent, que votre vie est à l'envers. Imaginez que vous prenez votre appartement et que vous le mettez à l'envers. Faites cet exercice mental, vous allez voir que la vie devient tout de suite très compliquée. Et puis, il y avait l'incertitude quand même, qui est de savoir, bon, même si j'avais là aussi inventé un système pour que la balise de détresse qu'on a à bord, qu'on active, que quand il y a un danger de mort, pour que cette balise puisse émettre même le bateau à l'envers. On allume la balise, on voit la petite lumière qui flash, qui dit qu'elle marche, et le reste on l'imagine. On imagine que quelque part le message va bien arriver et qu'on va bien envoyer, en l'occurrence, les bateaux qui sont dans la course, qui sont les bateaux les plus proches de vous, pour faire quelque chose. Mais tant que 24 heures après, on ne voit pas un concurrent qui arrive et que là, on sait que c'est bon, il y a quand même une grosse incertitude.
Il faut dire que suite à cet accident, vous avez abandonné les courses en solitaire. Est-ce qu'on doit y voir un lien direct ?
Non.
Vous êtes senti épuisé ?
Non, pas du tout, parce que la décision d'arrêter, je l'ai prise avant. En fait, j'ai eu la chance de participer à 4 tours du monde en solitaire. À la fin du troisième, je me suis dit, bon, j'avais à peu près 45 ans, et je me suis dit, si je veux changer de vie, si je veux faire autre chose de ma vie, tenter de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, il va falloir que j'arrête un jour la course au large. Et donc dans ma tête, je m'étais dit, je fais encore un tour du monde, parce que ça me passionnait, parce que j'adorais ça, mais je me promets à moi-même que ce sera le dernier, quoi qu'il arrive, que je gagne, que je perde, que quoi qu'il arrive, ce sera le dernier. Donc j'ai tenu parole.
Et cette expérience, j'imagine, a confirmé votre décision.
Oui, évidemment, mais en même temps, j'aurais pu avoir la réaction inverse et me dire, j'ai pas eu de chance, je vais y retourner encore une fois et peut-être que cette fois-ci, je vais gagner. Donc ça aurait pu jouer dans les deux sens.
Mais ça ne vous a pas tenté, pas tenté.
Pas du tout, et je vais dire que je n'ai jamais fait de cauchemar avec ça. Ça fait partie, encore une fois, de la vie des marins. Si on ne veut pas ça, il ne faut pas y aller. Personne ne vous oblige à y aller. Donc il faut y aller avec le maximum de sérénité et en même temps le maximum de précaution.
Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé après toutes ces expériences ?
Oui, bien sûr, heureusement. Heureusement que des tours du monde en solitaire vous font évoluer dans la vie.
Dans quel sens ?
Moi, j'y ai vu les bons côtés. Par exemple, une vraie sérénité par rapport à la vie et par rapport à la mort, donc. Une confiance en moi-même beaucoup plus forte. Tout simplement parce que je me suis rendu compte en naviguant seul, en étant au milieu de difficultés, que j'étais capable de les résoudre. Et que quand personne ne vous donne la solution, vous la trouvez toute seule. Et que quoi qu'il arrive, vous la trouvez. Elle est plus ou moins bonne, votre solution, mais vous en trouvez une. Et ça, je crois que après, ça vous donne confiance en vous-même et ça vous permet d'affronter finalement tout le reste de la vie avec, pas mal de détachement.
Et de manière plus générale et peut-être moins extrême, comment est-ce que la mer transforme ceux qui passent plus de temps que sur Terre ?
Pour plusieurs raisons, je pense. D'abord parce que c'est la fréquentation de la nature. Et c'est donc la compréhension physique, réelle, que de toute façon, la nature a raison. Qu'on peut avoir toutes les constructions intellectuelles ou techniques qu'on veut, La mer est la mer, je ne change pas la direction des vagues, je ne décide pas de la force du vent, mais je peux simplement les comprendre et m'adapter.
Donc on touche au sujet de l'humilité ici ?
Oui, de l'humilité, de la compréhension que nous habitons, nous les hommes, une planète de nature et que notre rôle, entre guillemets, si nous voulons survivre individuellement ou collectivement, c'est de nous adapter à cette nature et pas de la détruire. Et ça explique une autre partie de ma vie. Je crois que la deuxième chose que j'ai beaucoup apprise en mer, c'est les autres. Étrangement, puisque je naviguais seule. Mais justement, qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous êtes seule ? C'est pas tellement votre lit bien chaud ou des légumes frais, parce que ça, bon, voilà, vous les avez pas, mais c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Ce qui vous manque le plus, c'est évidemment les autres. C'est de parler, c'est d'être avec les gens que vous aimez, c'est de sentir une présence, quelqu'un qui va vous serrer la main, tout simplement, ou que vous allez regarder dans les yeux. Et je crois que, oui, ça vous rapproche des autres, ça vous fait percevoir l'influence et l'importance considérable que nous avons les uns sur les autres et le bonheur qu'il y a à vivre ensemble et à faire société ensemble.
Là, on touche aussi au titre de votre dernier roman, Soudain seul, que vous êtes venu promouvoir à Prague pour sa parution en tchèque. Est-ce que vous connaissez donc quelqu'un qui s'est retrouvé sur une île déserte pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, puisque c'est le sujet central ?
Non, je ne connais pas. Alors, j'ai lu des livres, parce que c'est des choses qui arrivaient beaucoup plus au 19e siècle ou même avant, et qui arrivent peut-être beaucoup moins maintenant, parce qu'on a quand même souvent des moyens de communication. Je parlais tout à l'heure de la balise de détresse ou des choses comme ça. Donc j'ai voulu imaginer, je pense que ça pourrait se produire quand même, mais j'ai voulu mettre mes personnages dans la situation, on va dire la pire, où ils n'ont plus aucun moyen de communication et ils sont sur une île où personne ne va venir, parce que c'est une réserve naturelle qui est interdite, donc je les ai mis exprès dans une situation sans recours, pour justement essayer d'imaginer ce que pouvaient être les réflexes de survie.
Donc c'est plus un exercice d'imagination qu'une expérience personnelle ou
absolument.
Partagée avec quelqu'un de
L'endroit que j'ai décrit ressemble beaucoup, on va dire, à des endroits que j'ai pu fréquenter en bateau. Donc des îles australes, donc des îles froides, des îles assez difficiles pour les hommes en tout cas. Très belles peut-être, mais pas très faciles à vivre. Justement pour mettre mes personnages dans une situation assez extrême, où la survie va être tout de suite de savoir par exemple quoi manger. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas trop de plantes qui poussent, il va falloir lutter contre les animaux, chasser, survivre, voilà.
Depuis 8 ans, vous êtes présidente de la branche française du Fonds mondial pour la nature. Comment est-ce que vous vous expliquez qu'une partie des autorités politiques, mais aussi des milieux scientifiques, ne partagent pas ou ne semblent pas confirmer les pronostics catastrophiques prononcés par les ONG environnementalistes ?
Alors, dans les milieux scientifiques, honnêtement, il y a maintenant extrêmement peu de gens qui dénient, par exemple, la question du réchauffement climatique, qui doit rester 0,001%. Des scientifiques, parce qu'on a tellement de preuves de tous les côtés que dans les milieux scientifiques, j'ai pas trop d'inquiétude.
Je sais pas
au contraire.
Si vous êtes au courant, mais l'ex-président tchèque Václav Klaus, justement, nie le réchauffement climatique.
Après, il y a, et vous faites bien de le dire, il y a les autorités politiques qui, souvent pour des raisons politiques, ne veulent pas entendre le message que les scientifiques, les ONG ou même les citoyens peuvent leur délivrer, parce que ça remet en cause un modèle dans lequel ils se sont inscrits et qui les arrange quelque part. Et ça remet en cause certains intérêts économiques ou certains modèles politiques. Donc on a un déni de la réalité, mais qui n'est pas nouveau. Les dénis de réalité a toujours existé. Simplement, le souci, c'est que on a de moins en moins de temps pour réagir, et plus on va traîner, entre guillemets, pour mettre en œuvre les solutions, qui sont des solutions qui ont aussi des intérêts économiques et politiques, c'est pas revenir à la bougie et à la caverne, plus on attend, plus ça va être compliqué et plus on va souffrir en fait.
Le WWF est soutenu notamment par Leonardo DiCaprio qui en est membre. Dans quelle mesure est-ce que ça vous aide de vous associer à des célébrités ?
Parce que ça nous aide à passer les messages, parce que quand Leonardo DiCaprio s'exprime, les télévisions tendent leurs caméras et leurs micros. Donc arriver à avoir comme porte-parole des gens très connus, à mon petit niveau, évidemment pas du tout comme Leonardo DiCaprio, mais en France je suis quelqu'un quand même d'un petit peu connu. Donc voilà, donc c'est plus facile de s'exprimer, c'est plus facile d'être entendu. Maintenant, il n'y a pas de... Enfin voilà, il est à un certain niveau comme n'importe quel citoyen qui s'engage.
Si vous permettez, je vais vous poser une question un peu plus personnelle pour conclure cet entretien. Vous n'avez pas d'enfant. Est-ce qu'on peut y voir un lien direct avec votre vie sur mer ?
Oui, bien sûr. C'est un choix délibéré que j'ai fait. Je pense que j'aurais tout fait mal si j'avais voulu tout faire à la fois. Je pense que la liberté dans la vie, c'est de faire des choix. Moi, j'ai voulu prendre la liberté de naviguer, de faire des grandes choses en mer. C'était ce que je ressentais au fond de moi-même comme étant mon accomplissement personnel. Je n'imaginais pas faire un tour du monde et laisser des petits-enfants à la maison, par exemple. Je crois que j'aurais été très malheureuse, et mes enfants aussi, sans doute. Donc j'ai fait un choix que je ne regrette pas.
Vous deviez refaire un choix de vie pour une autre vie, ce serait le même ?
Ça pourrait tout à fait être le même, mais je crois qu'il ne faut pas se fermer de porte. Si j'avais une autre vie, bon, je ne sais pas laquelle elle aurait été. C'est pas que je n'aime pas les enfants, mais c'est que je considérais que je ne pouvais pas faire deux choses à la fois.
Isabelle Autissier, merci beaucoup.
Merci.